France Inter.
Bonjour à tous. La situation rappelle les pires famines du XXe siècle en Éthiopie et au Biafra. Les Nations Unies, atterrées par l'urgence humanitaire à Gaza, alors que la communauté internationale, y compris la France, on l'apprend à l'instant, tente d'organiser de l'aide sur place. Une vingtaine de morts dans deux frappes distinctes depuis la nuit dernière en Ukraine. La Russie à l'offensive, sourde aux menaces de sanctions réitérées hier par le président américain Donald Trump. À Kiev, Volodymyr Zelensky déplore des bombardements délibérés sur des civils. Le match n'est pas fini. Le patron du MEDEF croit en la poursuite de négociations après l'accord trouvé entre l'UE et les États-Unis sur les droits de douane. Des visites dans le plus simple appareil naturiste au musée de la préhistoire de Bélesta en Ariège. Et puis Anastasia Kirpichnikova dans le Grand Bassin de Singapour, la nageuse française en finale des mondiaux sur le 1500 mètres nage libre.
France Inter.
À Gaza, le pire scénario de famine est donc en cours, malgré la reprise timide de l'aide humanitaire dans l'enclave. Nouvelle alerte ce matin de l'autorité IPC, soutenue par l'ONU, chargée de surveiller la sécurité alimentaire dans le monde, alors que certains pays, États-Unis, Allemagne, Espagne, Jordanie, promettent d'organiser prochainement des ponts humanitaires. On apprend même à l'instant de sources diplomatiques que la France va larguer par les airs de l'aide dans les tout prochains jours. À Gaza. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Toute mobilisation, même anarchique, bienvenue tant la situation sur place est précaire.
Oui, alors pour comprendre ce qui se passe à Gaza, on peut s'appuyer sur les déclarations de l'ONU ce matin qui expliquent que la catastrophe rappelle les pires famines du XXe siècle en Éthiopie et au Biafra. Et si on entre un petit peu plus dans le détail, les dernières macabres classifications des agences mondiales expliquent que les 5 niveaux d'insécurité alimentaire sont atteints à Gaza. Les chiffres donnent près de 2 millions d'habitants en situation de crise alimentaire, c'est le niveau 3. 925 000 en urgence alimentaire, c'est le niveau 4. Et 244 000 en situation de catastrophe alimentaire, c'est le fameux niveau 5. Ces données datent du mois de mai, mais elles sont en train d'être réactualisées avec une certitude. Oui, la situation s'est aggravée, notamment chez les plus jeunes. Dans ce contexte, l'ONU et ses services ne se font aucune illusion. Les largages aériens de vivres récemment autorisés par Israël ne seront pas suffisants pour inverser la catastrophe humanitaire, mais elles auront le mérite d'exister. L'Espagne a donc annoncé qu'elle larguerait 12 tonnes de nourriture. L'Allemagne a annoncé organiser avec la Jordanie un pont aérien pour acheminer denrées alimentaires, fournitures médicales à Gaza. Hier, des avions jordaniens et émiratis ont largué 17 tonnes d'aide. Et puis donc, la France, de sources diplomatiques, on l'apprend il y a quelques minutes, devrait elle aussi participer à ce genre de largage par les airs d'aide humanitaire dans les prochains jours.
Nathanaël Charbonnier, le ministère de la Santé du Hamas qui annonce que le bilan total de la guerre dépasse ce matin les 60 000 morts. Pas de cessez-le-feu au programme, fin de non-recevoir des autorités israéliennes qui rejettent à nouveau ce matin la pression internationale en faveur d'une reconnaissance d'un État palestinien qualifié de campagne biaisée par le chef de la diplomatie. Mettre fin au conflit alors que le Hamas est toujours au pouvoir à Gaza serait une tragédie, a estimé ce matin le ministre Gideon Sarr. Le bruit des bombes assourdissant ces dernières heures en Ukraine. 5 personnes sont mortes ce matin dans un bombardement russe, selon la police, dans la région de Kharkiv. Dans la foulée d'une première frappe, la nuit dernière, dans une prison du sud-est du pays, délibérée, intentionnelle et non accidentelle, dénonce le président ukrainien Volodymyr Zelensky. D'une rare violence aussi, cette frappe, au moins 17 morts et 35 blessés. À Kiev, Bastien Bory.
Il est 23h28. Deux avions bombardiers envoyés par Moscou passent à l'aplomb d'une prison ukrainienne à quelques kilomètres de Zaporijja. 8 bombes de 500 kilos sont larguées. En tout, ce sont 4 tonnes d'explosifs qui s'abattent sur l'établissement pénitentiaire, tuant sur le coup une vingtaine de personnes. Mais aujourd'hui, la communication de Kiev reste floue. On ignore à ce stade si parmi la vingtaine de morts figurent aussi en parallèle des soldats des forces ukrainiennes. Car l'acharnement de l'armée russe sur une seule et même cible avec une telle puissance de feu peut laisser penser que cette prison servait de couverture à une base de commandement. L'hypothèse est au conditionnel et elle devrait le rester tant l'aveu d'une erreur stratégique qui plus est dans cette région très disputée passerait mal pour Kiev. Quoi qu'il en soit, cette frappe qualifiée de crime de guerre par les autorités ukrainiennes intervient quelques heures seulement après un nouvel ultimatum américain. Le Kremlin n'a désormais plus qu'une dizaine de jours pour cesser le feu, mais il n'en prend pas le chemin.
Le Kremlin qui affirme ce matin maintenir son engagement pour résoudre le conflit en Ukraine. Après cet ultimatum lancé par Donald Trump, nous avons pris note, dit le porte-parole Dmitri Peskov, regrettant un ralentissement de la normalisation des relations entre Washington et Moscou. Le chômage entre légère hausse en France, plus 0,2% au deuxième trimestre pour la catégorie A. Ceux et celles qui n'ont pas du tout travaillé hors département de Mayotte, précise le ministère du Travail. Les représentants du patronat en France, dans le plus grand des flous, après l'annonce d'un accord sur les droits de douane à 15% entre l'Union européenne et les États-Unis, déséquilibré en l'état, critique d'emblée le président du MEDEF, Patrick Martin, toujours confiant à ce stade de pouvoir encore limiter la casse avant l'entrée en vigueur des surtaxes annoncées dans 3 jours.
Ça n'est pas un bon deal. Alors, il y a 2 lectures. Il y a celle de ceux qui craignaient bien pire. J'étais le 13 mars à Cognac, le jour même où Donald Trump avait annoncé 200% de droits de douane sur les spiritueux. Donc il y a une forme de soulagement, mais fondamentalement, c'est le moins qu'on puisse dire, pas l'expression d'un rapport de force équilibré entre l'Europe et les États-Unis. Il y a des filières qui s'en sortent convenablement, d'autres sont menacées, et puis il y a surtout encore beaucoup d'ambiguïté, parce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre, par exemple sur l'acier, par exemple pour le médicament, sur les vins et même les spiritueux. Donc il y a eu des annonces assez prématurées, comme toujours de la part de Donald Trump, assez ronflant, triomphaliste, mais je crois que le match n'est pas fini.
Bonjour Maxime Deps.
Bonjour.
Du service Écho de France Inter. Cet accord n'est pas complet, le travail continue, a aussi déclaré le ministre de l'économie Éric Lombard. Il y a eu beaucoup de critiques de la part des leaders européens ces dernières 48 heures depuis l'annonce de l'accord, mais les Européens ont quand même réussi, Maxime, sur certains plans à obtenir gain de cause.
Oui, on pourrait citer l'aéronautique où les intérêts américains et européens sont partagés, hein, entre Airbus et Boeing, alors que Donald Trump menaçait d'appliquer 30%, il s'est finalement résolu à ne pas appliquer de taxes du tout. Les flux de composants pour cette industrie nécessitent en fait qu'ils puissent circuler librement, ce sera toujours le cas. On pourrait aussi parler de la TVA que Trump voulait abolir pour les produits américains vendus chez nous. L'Europe l'a retoqué. Autre sujet, tiens là encore, les normes alimentaires sur lesquelles Bruxelles n'a rien lâché non plus, pas plus que sur la réglementation des plateformes numérique que Washington aurait bien assoupli. On entendait Patrick Martin à l'instant, on ne sait toujours pas ce qu'il en sera des spiritueux. Signe là encore que l'affaire ne semble pas si simple, avec des Américains friands des cognacs, des armagnacs, des whisky français. Ces Américains accepteront-ils de payer 15% voire plus leur bouteille de vin de liqueur française quand on sait que l'équilibre euro-dollar actuel pourrait pousser les négociants à augmenter encore les prix? Alors cet accord n'est pas équilibré, certes, mais tout ça donne de quoi quand même relativiser à minima le bon deal que se félicite d'avoir signé le président américain.
Maxime Deps, une 60aine de médecins scientifiques demandent officiellement au Conseil constitutionnel de rejeter la loi Duplomb, dangereuse pour nos concitoyens, écrivent les signataires dans cette tribune. Les signataires dans cette tribune, dans Le Monde, ils dénoncent un texte agricole élaboré en ignorant ce que les professionnels de la santé connaissent des effets des produits pesticides sur la santé humaine. La pétition citoyenne pour abroger le texte a par ailleurs dépassé les 2 millions de signatures. Le garde des Sceaux, lui, saisit le Conseil d'État avant de présenter sa réforme du système judiciaire à l'automne. Gérald Darmanin a détaillé 10 premiers articles. Hier, il propose notamment de réserver les peines de sursis au casier vierge, de revoir le principe d'aménagement obligatoire de certaines peines et de multiplier les cours criminels sans juré. Le ministère de la Justice, par ailleurs, à la recherche de familles d'accueil pour héberger des jeunes suivis par la protection judiciaire, des mineurs 13 à 18 ans, déjà inquiétés pour une infraction ou pour un crime. En quête de coups de pouce et d'un environnement stable pour repartir du bon pied, sans que rien ne soit jamais directement imposé, précise Joséphine Astier, la directrice de l'établissement de placement éducatif.
Nous, les enfants qu'on accueille, du coup, c'est sur décision des juges des enfants, donc du magistrat, mais c'est aussi en accord avec ce qu'on peut proposer. Jamais on n'imposera un jeune à une famille d'accueil. On a des familles d'accueil qui disent bah, « nous, on préfère travailler des filles, d'autres avec des garçons, nous, on n'est pas à l'aise avec tel type de jeune ou tel type d'infraction. Et ça, c'est très, très important, puisqu'on ne va jamais imposer un jeune en famille d'accueil, bien au contraire. On va travailler avec la famille d'accueil en amont, en disant, bah, on a tel jeune qu'on accueille, on a pensé que ça pourrait être intéressant pour vous, parce que ça correspond à ce que vous pouvez aussi lui proposer. Y a une première rencontre qui se fait, et effectivement, si la rencontre aboutit et on voit que ça peut prendre, et ben effectivement, on bascule sur la famille d'accueil.
Les modalités de candidature sont sur le site lajusticerecrute.fr et la campagne de communication intitulée « Vous avez tout pour devenir famille d'accueil ». Sur le site du gouvernement, une indemnisation de 45 euros par jour est prévue pour les bénévoles. Il a été retrouvé par les secours, touché par balle au niveau du thorax. Un jeune homme de 24 ans est mort cette nuit à Marseille, victime selon le parquet d'un nouveau règlement de compte lié au trafic de drogue. Dans le 15e arrondissement de la ville, le tireur est en fuite, la brigade criminelle de la police judiciaire en charge de l'enquête.
France Inter, le journal de 13h. Sébastien Cabrita dos Santos.
L'Iran, toujours accusé de s'appuyer sur la peur pour maintenir son autorité. L'ONU exhorte Téhéran, un peu plus d'un mois maintenant après la fin de la guerre entre Israël et l'Iran, à arrêter d'appliquer la peine de mort. Deuxième pays au monde, après la Chine, avec le plus d'exécutions, 612 au moins depuis le mois de janvier, Claude Guibal.
Depuis le début de l'année, presque 3 personnes pendues chaque jour en Iran, déjà le double du nombre d'exécutions à la même date l'an dernier, elle-même une année record. Volker Türk, le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, appelle à un moratoire immédiat. Justice à huis clos, procès inéquitable, ses services affirment que plus de 40% des exécutions cette année sont liées à la drogue et d'autres parfois sur des accusations telles que l'inimitié envers Dieu ou encore la corruption sur terre, des accusations utilisées pour réprimer les dissidents. Avec la guerre avec Israël, l'Iran a intensifié la répression, arrêtant des centaines de personnes avec plusieurs exécutions pour terroriser la population. Faux, dit Téhéran, qui dit ne réserver la peine de mort qu'aux cas les plus graves. L'ONU surtout s'inquiète d'un projet de loi sur l'espionnage examiné en ce moment par le Parlement. Il redéfinit le crime de collaboration avec l'ennemi, passible de la peine de mort, en l'élargissant aux communications en ligne, la collaboration avec des médias étrangers ou encore l'alignement idéologique, une arme absolue pour museler toute dissidence.
Claude Guibal, rédaction internationale de Radio France. 3 Français sont actuellement retenus comme otages en Iran, dont 2 inculpés pour espionnage. Cécile Collère et son compagnon Jacques Paris, crime passible de la peine de mort. Des coupes claires dans les effectifs de la NASA. La célèbre agence spatiale américaine va perdre 3900 employés au total, dégraissage dicté par l'administration Trump, dont on s'inquiète jusqu'à Moscou. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Le nouveau patron de l'agence spatiale russe Roscosmos vient d'ailleurs d'atterrir à Houston.
Houston, où Dmitri Bakanov va s'entretenir avec le patron par intérim de la NASA, Sean Duffy. Il n'y avait pas eu de rencontre à ce niveau depuis 7 ans. Bakanov, qui doit aussi rencontrer le cosmonaute Oleg Platonov avant son décollage, jeudi de Cap Canaveral, est aux États-Unis pour discuter de la suite de la coopération russo-américaine. Car en plein conflit ukrainien, le spatial civil est toujours resté entre les deux acteurs une bulle de non-agression, avec une station spatiale internationale dans le rôle de symbole absolu de la coopération. Depuis 25 ans, même au plus fort des tensions, tout le monde a toujours cohabité. Sauf que la suppression d'un cinquième des effectifs de la NASA rebat les cartes. Quels programmes seront sacrifiés? Les missions de surveillance de la Terre, l'exploration des planètes ou justement l'ISS? Sa fin est programmée pour 2030, mais elle aura peut-être lieu plus tôt. Selon le précédent patron de Roscosmos, 80% des éléments de l'ISS ont dépassé la date de garantie. Et de fait, le temps consacré aux réparations et à l'entretien ne cesse d'augmenter. Côté américain, Trump veut réduire le budget d'exploitation, la taille des équipages et le nombre de missions pour se consacrer à la Lune et à Mars. La Russie reste indispensable pour l'ISS. C'est elle qui assure la rehausse régulière de l'altitude grâce à son segment motorisé, sans oublier les Soyouz, seul vaisseau avec ceux d'Elon Musk à pouvoir acheminer les astronautes dans l'espace. Alors, Moscou, qui fait face à des difficultés budgétaires, a-t-elle besoin de fonds pour le spatial militaire? On le comprend, si l'ISS lie encore les deux nations, ce n'est peut-être plus pour longtemps.
Sophie Becherel, elle est vice-championne olympique en titre de la discipline. Anastasia Kirpichnikova est en ce moment en plein effort. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
En direct de l'Aquatic Center de Singapour, où se déroulent les championnats du monde de natation, la Française est en finale du 1500 mètres nage libre aujourd'hui.
Oui, elle va devoir réaliser la course de l'année, comme celle, pourquoi pas, du 31 juillet 2024, quand portée par les milliers de spectateurs de la Défense Arena à Nanterre, la Russe, naturalisée française en 2023, avait décroché, oui, la médaille d'argent du 1500 mètres, la seule d'ailleurs pour les nageuses françaises dans ces JO. Mais il faut le dire, hein, depuis, beaucoup de choses ont changé pour Anastasia Karpichnikova. Elle a fait une longue pause, presque 5 mois après les Jeux, pour fêter sa médaille. Elle a eu une préparation tronquée par une suspicion de problème au cœur qui s'est finalement avérée inoffensif. Bref, elle n'est pas ici à Singapour dans la forme de sa vie. D'ailleurs, dimanche, pour son entrée en lice sur le 400 mètres nage libre, elle a littéralement sombré. Hier, en série du 1500 mètres, elle nous racontait avoir mal partout, avoir bouclé le pire 1500 mètres de sa carrière. Alors, on ne peut pas dire, hein, qu'elle surfe sur une énorme confiance, d'autant qu'elle a de sérieuses clientes à côté d'elle, et notamment, que dire de l'américaine Kathy Ledecky, qui pourrait dans quelques minutes s'offrir sa 28e médaille mondiale. C'est tout simplement vertigineux. Vous l'entendez, le silence se fait. C'est parti pour ce 1500 mètres qui va durer un peu plus d'un quart d'heure, 30 longueurs de bassin à avaler, 28 virages. Allez, Anastasia Karpichnikova, il faut y aller pour avoir une nouvelle médaille côté français.
Jérôme Val, dans l'ambiance de l'Aquatic Center de Singapour, où se poursuivent ces championnats du monde de natation. Demain, l'entrée en lice de la vedette française Léon Marchand, 4 fois champion olympique. Il sera aligné sur les 4 fois 200 mètres. La favorite, bien au départ de la 4e étape aujourd'hui, Demi Vollering, poursuit son Tour de France malgré sa lourde chute hier à l'arrivée à Angers. Pas sûr jusqu'à ce matin encore de pouvoir continuer. Il y a 130 km à parcourir aujourd'hui pour le peloton. Du plat pour l'essentiel entre Saumur et Poitiers, alors que la coqueluche du Tour de France, homme cette fois, Kevin Vauclin, repart lui déjà à la compétition 2 jours seulement après la fin de la grande boucle. Le Français aligné dès ce soir sur ses terres, sur le critérium de Lisieux, bien sûr accueilli les bras ouverts par l'organisateur de la course, Nicolas Feignan.
Je pense que cette année, on va être dans une des plus belles années sur les 15-20 dernières années. Si on a le soleil avec nous, je pense qu'on va vraiment avoir beaucoup de monde. Depuis une petite dizaine d'années, le critérium de Lisieux était un peu en perte de vitesse. Historiquement, on présentait toujours 20 000 spectateurs, sauf que dans la réalité des faits, c'était plus entre 15 et 20. L'année dernière, je pense qu'on était plus entre 10 et 15. Et c'est là où on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose, parce que ça pouvait pas continuer comme ça. L'année dernière, ça a vraiment pas été bon. Et cette année, on avait vraiment à cœur de refaire une belle fête, de faire une édition vraiment importante. Et ça passait par un beau plateau. C'était vraiment une priorité d'avoir Kevin. Parce que déjà, oui, il a pris la place de chouchou dans le cœur du public français. Mais encore plus en tant que Normand. Forcément, il va faire venir du monde. Alors comme en plus, il a super bien performé et qu'en plus, il a vraiment plu à beaucoup de monde, forcément, c'était celui qu'il fallait.
L'organisateur du critérium de Lisieux, Nicolas Fagnin, avec Grégoire Bellière, ici Normandie. Et puis, c'est un voyage dans le temps, de plusieurs millions d'années jusqu'au Paléolithique, vraiment comme si on y était. Le musée de la préhistoire de Bélesta, dans les Pyrénées-Orientales, propose des créneaux de visite naturistes, tout nus, comme à l'époque, Simon Kolbok.
Et après l'entrée, c'est comme à la piscine, il y a le vestiaire.
Voilà, avec un rideau, avec un porte-manteau.
Tarek Kouteni, le directeur.
Pour le téléphone, voilà, on a mis des caisses ici, effectivement.
Francis est venu spécialement de Béziers, 1h30 de route.
Moi, je suis naturiste depuis 30 ou 40 ans, mais jamais dans un musée. C'est la première fois que je voyais que c'était possible. Je trouve que je n'ai pas dénoté, puisque les hommes préhistoriques vivaient nus également.
Bernard, lui, vient de Toreil. Il est moins convaincu.
Habillé ou pas habillé, pour moi, je n'ai pas trouvé de différence.
Par rapport quand vous êtes sur une plage.
Et de sentir le vent, le soleil, l'eau. On ne voit que des corps, alors qu'ici, on ne voit que des murs et des vitrines. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde.
Oui, seulement 2 visiteurs mardi dernier. Mais l'idée du directeur, Tarek Kouteni, c'est aussi de faire parler du musée.
Ce musée, il y a plein de Français qui ne connaissent pas. Quand ils viennent, ils ne pensaient pas que c'est aussi intéressant, aussi grand, aussi joli, aussi l'architecture.
L'an dernier, le musée de Bélesta a accueilli 6500 visiteurs. C'est 2 fois moins qu'il y a 20 ans. C'est aussi 10 fois moins que l'autre musée de la préhistoire du département, celui de Totavel.
Simon Kolbok, ici Roussillon, les créneaux naturistes, c'est les mardis soirs de 19 à 21h. C'est le même prix avec ou sans vêtements, 5,50 € pour un adulte.
La météo avec l'alarme Vérissure.
Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Arrivée d'une perturbation sur le nord-ouest.
Oui, les nuages recouvrent déjà une bonne partie de la Bretagne et vont s'enfoncer cet après-midi vers la basse Normandie et les pays de la Loire. Alors cette perturbation est faiblement active, elle ne lâche que quelques pluies faibles et intermittentes sur son passage. À l'avant de cette perturbation, les éclaircies de ce matin laissent place à un ciel de plus en plus nuageux entre le Poitou, la Touraine, le bassin parisien, les Ardennes et les Hauts-de-France. Quelques averses pourront circuler au nord de la Seine, comme actuellement en Seine-Maritime. Sur le reste du pays, le temps sera plus lumineux. Les éclaircies resteront nettes, en particulier près des plages de l'Aquitaine ou encore dans les plaines du sud-ouest et entre le Lyonnais et la Champagne. Le soleil brille encore plus généreusement sur les régions méditerranéennes. Prévoyez tout de même du vent, toujours avec le Mistral et la Tramontane, et quelques averses sur le Mercantour et le relief de la Corse du Sud. Et puis cet après-midi, les températures maximales restent 1 à 3 degrés sous les normales d'une fin juillet. Prévoyez 20 à 26 degrés sur la moitié nord, avec 24 degrés pour Lille, Paris et Strasbourg. 23 à 28 degrés plus au sud, avec 26 degrés à Lyon, ou encore 27 degrés à Toulouse et 29 degrés à Marseille. On ira quand même jusqu'à 32 degrés sur les régions méditerranéennes.
Sébastien Léas, Météo France.